avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, les jeux de société raflent la mise, y compris et surtout pendant la crise du coronavirus. Vous connaissez le Scrabble, le Monopoly, toujours en tête des ventes, mais largement ringard aux yeux des jeunes. Ce qu'ils aiment, c'est jouer, non pas en famille, mais avec leurs amis, jusqu'au milieu de la nuit, surtout en ces temps de confinement, et surtout à des jeux plus stratégiques, dans des univers fantastiques, des époques lointaines, avec des dominations, des combats, pas si éloignés de l'imaginaire des jeux vidéo, finalement. Sauf que là, on s'excite avec un simple plateau en carton, des personnages en plastique, régressif, avec l'imagination au boulot. Très surprenant, cette pose d'écran. Il y a le classique Donjons et Dragons, mais on pourrait aussi citer beaucoup d'autres jeux, Pathfinder, Vampire, Rising Sun. Les jeux d'adresse, comme le Tech-Tech en Côte d'Ivoire, continuent aussi de passionner. Et quant à vous, les voisins et les voisines, on attend vos témoignages. Quels sont vos jeux préférés et que vous apportent ces moments pour la gagne? Car quand même, à la fin, il faut bien qu'il se passe quelque chose. Appelez-nous sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41, je répète, 33 7 64 45 51 41, c'est le moment de nous parler de votre passion. Un passionné, on l'a avec nous dans l'émission, Bruno Catala, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, j'allais dire très connu, non, une star dans le milieu des jeux de société. Vous êtes un ex-ingénieur en physique des matériaux, vous avez créé près de quoi, 130 jeux en une vingtaine d'années, c'est ça ?
Oui, c'est ça, je crois. Enfin, moi, je ne les compte pas, mais il y en a qui font le compte pour moi, mais c'est l'ordre de grandeur.
On dit l'auteur français le plus prolixe. Vous avez été primé au plus grand festival de jeux de société au monde, Spiel des Jahre, en Allemagne, l'équivalent des Oscars du jeu de société, c'est ça, non ?
Exactement, ouais, tout à fait. C'est l'équivalent.
Vos plus grands succès, Bruno Catala, pour que nos auditeurs comprennent de quoi on parle s'ils jouent à vos jeux.
Ouais. Alors mes plus grands succès en termes de vente, c'est King Domino et Seven Wonders Duel qui ont tous les deux dépassé le million d'exemplaires vendus. Mmh.
King Domino, donc à base de domino.
Exactement, il s'agit de composer un petit royaume en utilisant les dominos d'une façon plus originale que dans celle des dominos ancestraux.
Il faut conquérir des terres, mais toutes les terres ne se valent pas. Et Seven Wonders Duel, le principe, c'est on est aussi dans un monde un peu fantastique.
Alors on est plutôt dans un monde antique, il s'agit de recomposer une civilisation antique en cumulant des cartes dans des domaines militaires, scientifiques, voilà, c'est un imaginaire plus proche des Romains, des Égyptiens, etc.
Nous sommes en ligne également avec Samuel Coavou, sociologue au Centre de Recherche sur les Liens Sociaux, Sorbonne Université de Paris, CNRS. Bonjour Samuel Coavou. Vous avez publié une étude avec Vincent Berry, qui veut jouer au Monopoly, culture et pratique du jeu de société en France. La France qui est le premier marché européen du jeu de société, près de 20 millions de jeux de société vendus chaque année. Et vous nous direz quelles sont les caractéristiques de cette passion française. Nous serons aussi en ligne à Abidjan, je vous parlais du tech-tech. Charles Abissé, fondateur de Crease Up, une entreprise ivoirienne spécialisée dans la fabrication de jeux de société. C'est un pays où on joue beaucoup en famille et dans le quartier, notamment le fameux tech-tech qu'il a revisité. À la base, c'est avec des bouchons de bouteilles. Allez, je vous rappelle notre numéro de WhatsApp, 33 7 64 45 51 41. Et on parle des jeux de société, ceux qui vous animent.
Ça vous dit une petite partie ?
Ah oui !
Je tire une carte,
ah bah oui.
Dessus il y a un mot. J'ai une minute pour vous le faire deviner rien qu'en le dessinant.
Soldat !
C'est prisonnier.
Ligoté.
Prisonnier.
Ça y est, c'est fini. C'était camisole.
Oui, bah c'est
camisole. Moi j'aurais trouvé tout de suite.
Cluedo, le fameux jeu où le docteur Lenoir est assassiné. Avec la corde dans la cuisine, avec le poignard dans la bibliothèque. Non, c'est le colonel Moutarde avec le chandelier la nuit partant de brouillard.
La bonne paye, un jeu où on épargne, on emprunte, on achète, on paie ses factures, on gagne à la loterie. Et à la fin du mois, chacun fait ses comptes.
Bon glouton, manger pour gagner.
Jouer à destin pour changer de vie.
Jouer à destin, porter d'autres habits. Celui d'un pilote qui court sur les circuits. Celui d'une mariée à qui destin sourit. Celui d'une vedette du Tour Paris. Celui d'un milliardaire pour qui rien n'a de prix.
Jouer à destin pour changer de vie.
Destin, plusieurs vies dans une partie.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Allez, je vous lis quelques messages postés sur nos réseaux sociaux aussi d'auditeurs. À Babacar qui est à Niamey au Niger. Mon jeu de société préféré, c'est le 6 Ludo qui ressemble un petit peu aux petits chevaux. C'est un jeu très amusant que je pratique avec ma bien-aimée Farida. On y joue chaque soir pendant nos rancards et on passe du bon temps ensemble. Ah oui, on peut draguer aussi avec des jeux de société. Ah oui, Radwe qui est à Ouagadougou au Burkina Faso nous dit, moi j'adore jouer au jeu du damier. C'est mon jeu préféré et je défie quiconque à Ouagadougou. Donc le défi est bien lancé. Si vous voulez vous mesurer à Ouradoué, vous nous écrivez. Surtout si vous êtes à Ouaga. Sinon, connaissez-vous le jeu du SIG ? Explication avec Bouna, un voisin en Mauritanie, à Nouakchott.
Bonjour à tout le monde. Je voudrais vous parler d'un jeu de société qui s'appelle SIG chez nous. SIG lui-même est un nombre de bâtons de 8. 8 bâtons obtenus avec des branches de palmiers. Qui sont fendus, donc la partie intérieure du bâton est très blanche et la partie extérieure est plus foncée. Chaque joueur, il jette le SIG sur un tapis de cuir et selon le nombre de bâtons qui sont tombés sur la partie blanche, il déplace les jetons. Les jetons, ce sont des pierres pour une équipe et des bâtons pour l'autre équipe. Chaque équipe fait avancer ses bâtons sur un amas de sable sur lequel sont posés ces jetons-là. Et si votre bâton est devant ma pierre de 4 points, par exemple, je jette et je tombe sur 4 bâtons blancs, donc je vais vous manger. Et c'est comme ça que chaque équipe va éliminer les pions de l'autre jusqu'à ce que l'autre équipe se retrouve avec 0 pions et on a gagné. C'est très simple, mais attention, il y a beaucoup de stratégies dedans. On calcule beaucoup qui va devancer qui et quel pion faut-il avancer et quel pion faut-il tenir. Et j'ai beaucoup aimé. Dans notre village, c'est très populaire. Il y a des gens qui sont célèbres chez nous parce qu'ils savent très bien manier ça. Et c'est toujours dans la bonne ambiance. Les enfants jouent avec les vieux et ça nous a beaucoup aidé, ça nous a appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de tricheries, mais c'est toujours extraordinaire. Merci beaucoup.
Mensonges et tricheries pour ce jeu d'adresse et de stratégie. Merci Bouna pour le message. Vous connaissez ce jeu, Bruno Catala ?
Alors, pas directement, mais ce qu'on voit, c'est qu'on utilise les bâtonnets comme des dés, en fait. Et ça fait comme un pile ou face, puisque ça revient à faire un pile ou face sur des bâtonnets. Et effectivement, quand on s'intéresse à l'histoire des jeux, on voit qu'il y a des jeux de parcours comme ça, qui sont depuis la très haute antiquité, qui utilisent ça. On trouvait des choses dans les tombeaux égyptiens, par exemple. Et quelque part, le jeu qui est décrit a des analogies très forte avec ce qu'on pratique chez nous en appelant les petits chevaux. C'est un peu pareil.
Les jeux, on y joue finalement, ces jeux de société, ils existent dans toutes les cultures, toutes les époques, partout dans le monde.
Oui, parce que je pense que en fait, l'homme joue, il a toujours joué et il jouera toujours.
Ouais, l'homme et la femme, hein. Tiens, ça c'est une question qu'on va aborder.
Alors,
est-ce que les jeux de société ont un sexe ?
Non, pas du tout.
Oui, quand même. On va y revenir, hein, justement, la place des défis dans les jeux de société. Et les voisines, je compte sur vous, hein, si vous jouez à des jeux de société. Bien évidemment, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41, surtout si vous vous battez, les garçons, à plate couture. On donne la parole à Yaya qui nous appelle de Tambacounda, à l'est du Sénégal. Bonjour Yaya.
Bonjour Emmanuel.
Yaya, vous avez 29 ans et alors je suis désolée parce que j'ai dit en introduction que le Scrabble et le Monopoly pour des jeunes c'était devenu ringard, mais vous c'est le Scrabble et rien d'autre. Pardonnez-moi, hein, Yaya.
Exactement Emmanuel. Le Scrabble, bon, moi je suis un passionné du Scrabble.
Ah oui.
Et je suis tombé amoureux depuis en 2009, hein, j'étais encore plus jeune. Hein.
Ah oui, donc vous jouez au Scrabble depuis l'âge de 18 ans à peu près.
Ouais. Depuis l'âge de 18 ans, je joue au Scrabble. Parce que je l'ai découvert, depuis que je l'ai découvert en 2009, donc j'ai essayé de jouer. Donc les débuts, c'était difficile parce que mon vocabulaire n'était pas très développé. Mais justement, à cause de ce jeu, j'ai pu vraiment enrichir mon vocabulaire, enrichir ma banque de mots. Parce que chaque fois, je découvre de nouveaux mots et puis je fais des recherches, je regarde leurs définitions. Donc, de ce fait, jusqu'au moment où je vous parle, si je connais la définition de certains mots, c'est bien grâce à ce jeu-là que j'ai découvert, mais à travers un camarade de classe, lors d'une heure de cours où le prof n'était pas venu, il était absent, donc on s'en est profité pour se rendre chez lui, et il a sorti le jeu-là, le fameux jeu-là. Donc, je lui ai demandé les règles du jeu, tout ça, donc il m'a dit, donc il n'y a pas grand-chose à savoir, il faut juste avoir son vocabulaire, savoir conjuguer les mots, les, connaître les mots invariables, tout cela, pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Depuis ce jour-là jusqu'à maintenant, je continue à user. Hein.
Ouais, il faut dire que quand même, vous êtes dans un pays, le Sénégal, où on aime beaucoup le Scrabble. Hein. Quand même, c'est un des pays qui se dispute les premières places de championnat avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Je crois qu'en 2009, c'est un Congolais qui a gagné, mais quand même, vous êtes très bien placé. Hein.
Ouais. Le Sénégal, ici, le jeu-là est bien prisé ici. Même à l'université, nous, lorsque j'étais à l'université, nous, on organisait des compétitions de Scrabble. Ouais. Malheureusement, je n'ai jamais participé là-bas. Mais on organisait des compétitions de Scrabble. Je voyais les jeunes jouer à ce jeu-là et passer de manière passionnée. Et moi, quand mes amis me rendaient visite dans ma chambre, on profite aussi pour organiser des petites compétitions entre amis. Et voilà, parce que c'est un jeu qui nous intéresse. Un jeu qui joint l'utile à l'agréable. Parce qu'en se divertissant, donc on se rend compte qu'en réalité, on est en train d'apprendre de nouveaux mots. Donc c'est un jeu qui est vraiment très utile. Quoi.
Voilà, vous avez dit au Standard que vous étiez déjà, avant de découvrir le Scrabble, un cruciverbiste. Voilà un bon mot pour le Scrabble. Adepte mots croisés, cruciverbiste. Voilà. Merci à vous Yaya de nous avoir appelé de Tambacounda. Je lis aussi le message d'Elodie Alomé. Bah, attendez Yaya, si vous n'avez pas raccroché, j'aurais peut-être aimé vous soumettre ce message. Elodie est Alomé au Togo et elle nous dit, il paraît que certains jeux sont source de malheur et qu'ils ne portent pas chance dans la vie. C'est ce qu'on nous dit, de ne pas nous adonner à certains jeux, car ils peuvent porter atteinte à la réalisation de nos projets sans autres explications. Qu'est-ce que vous en pensez, Yaya? C'est quelque chose qu'on dit aussi
chez vous? Dépend. Ça dépend de la manière dont on s'y prend. Parce qu'il ne faut pas laisser aussi les jeux accaparer tout notre temps. Donc il y a un temps pour les loisirs, il y a un temps pour le travail, il y a un temps... Donc il faut bien planifier son temps. Donc moi, je joue au Scrabble, d'accord, mais... Pendant les heures de travail, pendant les heures où je suis occupé.
C'est cette vieille idée du vice des jeux, si j'ai bien compris. Merci beaucoup, Yaya, de nous avoir appelé. Joël aussi est chef de cuisine à Bamako, au Mali. Il nous dit, j'adore les jeux de société, la coinche, les dominos, la belote, les fléchettes, les dominos à l'américaine aussi, qui est un jeu des îles. J'aime aussi le damier, la pétanque. C'est très convivial de jouer. Chaque dimanche, je propose de venir jouer dans mon restaurant. Laquez-nous, voilà, pour la petite page de pub, à partir de 16h à des jeux de société. C'est gratuit, ouvert à tous, alors profitez-en. Et justement, direction Cuba pour une partie de domino. Cet auditeur nous le disait, tous les Cubains savent jouer, jouent régulièrement au domino. Les dominos dans les Caraïbes se jouent avec 55 jetons au double neuf. En ces temps de confinement dû à l'épidémie de coronavirus, il est désormais interdit de jouer dehors. Mais notre correspondante à Cuba, Domitille Piron, est entrée dans une maison pour une partie avec Carlos, Darletis et William. Ambiance concentré.
Alors on commence, on mélange les dominos et ensuite chacun prend ses dominos. Combien ?
10.
Oui, mais il faut faire attention à ceux qui prennent moins de dominos.
Qui commence ? Qui a le double neuf ?
Double 9. Quelqu'un a le double 9 ?
Non.
Voilà un double 8.
El juego sale primero el doble más grande.
D'abord, le premier qui joue, c'est celui qui a le plus grand double, et ensuite, les joueurs associent les dominos en fonction du nombre de points indiqués sur chaque jeton. À la fin, quand plus personne ne peut poser ses dominos et que le jeu s'est arrêté, le gagnant est celui qui a le moins de points indiqués sur ses dominos restants.
Alors, ce jeu, c'est de la chance ? Ou de la tactique.
Es una combinación de ambas, o sea, la táctica está en tratar de poner la ficha.
C'est les deux. La tactique, c'est de poser des dominos pour que l'adversaire ne puisse pas mettre les siens. Et la chance, c'est d'espérer obtenir des dominos que ton adversaire n'aura pas.
Et alors l'objectif, c'est de gagner, d'être compétitif ou simplement de jouer. Toi, Darletis, tu joues pour gagner ou pour passer un bon moment?
Non, moi je joue pour passer un bon moment, pas forcément pour gagner. Je joue à l'instinct. Il se trouve que ça marche et que j'ai pu gagner contre des gens qui savent vraiment jouer.
Raconte-moi du coup, quand est-ce que tu as appris à jouer au domino, comment, avec qui ?
Dans la famille, tout le monde joue au domino, donc quand j'étais petite, on m'asseyait sur la table de jeu pour que je regarde, que j'apprenne. Mais je joue surtout pour m'amuser et partager un bon moment.
Jouer au domino, ça dure combien de temps?
Bueno, puede ser por puntuación, pero puede durar...
Ça dépend si on compte les points, mais ça peut durer toute une matinée, une journée, ça dépend. C'est comme tu veux, mais c'est très récréatif.
Est-ce que c'est un jeu addictif?
C'est.
Quand on commence, on n'arrive plus à s'arrêter.
Il y a des gens qui n'arrêtent pas de jouer. Dans certains quartiers, comme Centro Havana, notamment, ils jouent beaucoup, parce que c'est une façon de s'occuper.
Quelque chose de typique aussi, dans le domino, on peut jouer à deux ou à quatre, mais il y a toujours, toujours du monde autour qui va venir regarder le jeu. Pourquoi ?
La gente se agrupa porque, tu sabes...
Les gens se regroupent parce qu'en regardant jouer les autres, on apprend à jouer. Et puis ça fait passer le temps. Tu regardes qui se trompe, qui gagne, qui perd. Et puis c'est très cubain de se réunir en fait. Il y a toujours un peu de rhum, quelque chose à boire. Et on partage un moment sympa.
Et alors ça c'est très cubain aussi. Ils parlent tout le temps. Et quand ils posent un domino, ils donnent une expression, ils disent quelque chose qui est lié au numéro qui sort.
Non, parce que ça, sabes, lo más natural.
Ça dépend. C'est selon ce qui vient naturellement à l'esprit. Le 1, par exemple, on dit.
Unikaki meki caramelo unkoki.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que signifie?
Non, mais ce sont des expressions, ça veut rien dire. Mais comme ça, tu détends un peu l'atmosphère.
En fait, c'est très lié au tempérament cubain. On est très joueur. On utilise beaucoup d'expressions et on aime se divertir et s'amuser. Puis c'est une manière d'animer un peu le jeu et de se moquer de ses adversaires.
Samuel Coavou, on a passé en revue beaucoup de jeux. Il y a des jeux de hasard, de stratégie, d'adresse, de culture générale. Alors finalement, qu'est-ce qui a changé ces dernières années sur la façon peut-être dont on considère les jeux de société ?
Alors, beaucoup de choses ont changé. Traditionnellement, si on prend sur le temps très long, les premiers jeux, c'est des jeux traditionnels, notamment les jeux de cartes. Et puis, on a l'invention au XXe siècle de ce qu'on a appelé les jeux d'édition, qui sont des jeux dans lesquels le matériel a un rôle très important. C'est notamment les Monopoly. Si on prend le temps beaucoup plus court, il y a un renouveau du jeu de société, avec notamment l'invention de nouveaux jeux de société beaucoup plus complexes auparavant et avec un public assez différent à partir en gros des années 90. Et en France, on assiste également à un boom très important des jeux de fabrication française, alors qu'avant cette période-là, on avait beaucoup de jeux importés en réalité.
Bruno Catala, est-ce que vous, en tant qu'auteur de jeux de société, vous avez vu des changements avec la pandémie? Est-ce que les ventes ont augmenté avec les confinements?
Alors effectivement, en fait, mais le marché a été à deux vitesses avec la pandémie. C'est-à-dire que les jeux qui étaient déjà implantés, qui se vendaient déjà, se sont vendus encore plus. Et par contre, tout le marché de la nouveauté, ça a été très compliqué. Parce qu'un jeu, en fait, le genre de jeu que moi je travaille et tout ça, vous n'en entendrez pas parler normalement, à l'exception d'aujourd'hui, sur les grands médias, vous verrez pas de publicité dessus, etc. Donc ça se transmet par le bouche à oreille, ça se transmet finalement comme un virus. Et dans la mesure où on a stoppé toutes les chaînes de contamination, ça a été valable aussi pour les jeux de société. Donc en gros, soit vous aviez des choses qui étaient déjà très implantées, qui se sont vendues encore plus, parce que les gens, quand ils cherchent quelque chose, qu'ils vont sur Internet, ils vont trouver des références, des conseils sur ces jeux qui existent déjà. Mais tout le marché de la nouveauté, ça a été très compliqué.
Samuel Coavou, néanmoins, sur ces dernières années, les chiffres ne font qu'augmenter. C'est absolument incroyable. En particulier, parce qu'on a longtemps, nous, eu l'idée que les jeux de société, c'était pour les enfants, pour les adolescents. C'est plus du tout le cas aujourd'hui.
Alors si, c'est toujours beaucoup le cas, c'est-à-dire que si on regarde qui joue le plus, c'est toujours les enfants et les adolescents.
Ça n'est plus seulement le cas, je voulais dire,
voilà.
Pardon.
Et du coup, chez les adultes, une bonne partie des pratiques de jeux adultes sont des pratiques qui se font avec les enfants, donc ça demeure très important. Cela dit, effectivement, ce à quoi on a assisté depuis en gros les années 90, ça a été un renouveau du jeu de société adulte et un élargissement de la pratique. Quand on regarde génération par génération, les plus jeunes générations sont celles qui effectivement jouent le plus et ont le plus joué dans leur vie par rapport aux personnes plus âgées aujourd'hui. en tout cas en France.
Le changement, ça vient aussi de cette arrivée massive de nouveaux jeux. On ne sait plus où donner de la tête finalement.
Alors, il y a une production qui est massive, mais il faut faire attention. C'est pas parce qu'il y a des centaines et des centaines de nouveaux jeux qui sont produits que tous ces jeux trouvent un public ou que tous ces jeux trouvent un public important. Quand on regarde un peu les chiffres, ce qui reste le plus joué et de très loin, c'est le Monopoly, c'est le Trivial Pursuit, c'est le Scrabble, des
alors,
jeux
le,
qui
le
sont
Monopoly,
en fait assez
anciens. On va le rappeler, hein, c'est un jeu d'acquisition immobilière. Hein, le Trivial Pursuit, ce sont des questions de culture générale. Et le Scrabble, on forme des mots avec des lettres.
Voilà, tout à fait. Les jeux nouveaux, ceux dont on voit une explosion de la production, c'est des jeux qui demeurent plus confidentiels, où on est à quelques pourcents, à quelques dizaines de pourcents de la population qui ont une pratique de ces jeux. En gros, il y a, ces personnes-là vont être des joueurs ou des joueuses très actives qui généralement vont posséder plusieurs jeux, être intéressés par plusieurs jeux, etc. Il n'empêche que le marché global, il est vraiment dual, avec d'un côté un marché très grand public de jeux traditionnels qui sont leaders depuis longtemps, et de l'autre côté un marché de jeux nouveaux qui est beaucoup plus restreint.
Je posais la question tout à l'heure à Bruno Catala, est-ce que les jeux ont un sexe ?
Les jeux en soi n'en ont pas. La pratique des jeux, elle en a un. J'ai rappelé que effectivement, une bonne partie des pratiques adultes sont des pratiques qui se font avec les enfants et qui sont en fait prises dans les charges de travail domestique et de qu'on appelle aujourd'hui de care, hein, de d'élever ses enfants, d'éduquer ses enfants, qui est un travail qui, dans la société française encore aujourd'hui, est principalement assuré par les femmes. Ce qui signifie que, en fait, quand on regarde à quoi jouent les hommes, à quoi jouent les femmes, on constate que les jeux de l'enfance, les jeux qui sont associés avec la famille sont beaucoup plus joués par les femmes, et les jeux de passionnés, au contraire, ceux qui se jouent entre adultes globalement, sont des jeux qui sont plus joués par les hommes.
Alors ça, c'est en train de beaucoup bouger quand même. Hein.
Bruno Catala.
C'est-à-dire que dans mon domaine particulier, qui est plus le jeu un peu plus connaisseur, etc.
De stratégie.
Oui, mais pas que de stratégie, puisqu'on peut, la stratégie, c'est pas tout, mais c'est des jeux de partage autour d'une table, du lien social, etc. En fait, si on regarde effectivement, il y a 20 ans, 25 ans, les joueurs étaient pas exclusivement masculins, mais très très masculins. Et année après année, sur les salons, convention après convention, on voit la population féminine qui est en train d'augmenter de plus en plus, et aujourd'hui, on n'est pas loin de l'équilibre à ce niveau-là, au niveau des pratiquants.
Alors ce qui est intéressant, Bruno Catala, c'est qu'on voit de plus en plus de jeux coopératifs, c'est-à-dire qu'on ne joue pas les uns contre les autres, mais tout le monde...
On joue les uns avec les autres, exactement.
C'est ça, on joue les uns avec les autres, et contre qui alors finalement ? Contre le jeu lui-même ?
Eh ben contre le jeu lui-même, tout à fait, exactement. On joue contre une sorte ensemble, contre une sorte d'adversaire virtuel représenté par le système de jeu lui-même, et on va l'emporter ensemble ou on va perdre ensemble. Et ça, ben ça crée d'autres liens et d'autres façons de se regarder autour de la table. Et c'est un domaine qui est assez prisé hein, depuis quelques années, effectivement.
Vous-même, vous éditez des jeux coopératifs de ce type ?
Alors moi j'en ai fait peu, mais j'en ai fait quelques-uns, comme effectivement un jeu sur les chevaliers de la table ronde, hein, donc où on va partir dans des quêtes, soit récupérer le Graal, retrouver Excalibur, etc., où on va jouer ensemble contre les forces du mal.
Justement, j'allais vous demander vos sources d'inspiration. Comment vous puisez autant d'idées ? Vous dites beaucoup dans les interviews, vous pouvez tout d'un coup avoir l'idée d'un jeu en prenant votre douche.
Oui, exactement. Ouais. Bah en fait, les idées, elles naissent surtout dans des moments où on est en lâcher prise totale. Donc en fait, jamais je m'assieds à mon bureau en me disant tiens, aujourd'hui, je vais avoir une idée. Ça marche pas. Les idées, elles naissent quand on fait totalement autre chose. Effectivement, prendre une douche, prendre mon vélo, aller faire.
Ah, on a eu une petite coupure. Je voudrais rappeler aux auditeurs, pendant qu'on rappelle Bruno Catala, que par exemple, un de ses jeux qu'il a inventé, qui cartonne Seven Wonders ou Seven Wonders Duel, où les joueurs acquièrent des cartes au cours de trois âges. Ces derniers fournissent des ressources, font progresser leur développement militaire, scientifique, pour développer leur civilisation, bâtir des merveilles. On est beaucoup dans le monde fantastique, ou en tout cas plongé à une autre époque. Hein. Y a des jeux comme qui se passe au Japon, dans le Japon médiéval aussi. Ça, c'est un autre jeu qui n'a pas été inventé par Bruno Catala, Rising Sun, avec des créatures en plastique, des monstres qui luttent pour des territoires, pour de l'influence, pour des honneurs. J'espère qu'on va retrouver Bruno Catala, parce qu'évidemment, j'avais envie de lui poser la question, mais peut-être que Samuel Coavou le sait. Est-ce que le coronavirus, c'est quelque chose qui pourrait influencer des nouveaux scénarios de jeux de société? Parce que quand même, ce qu'on vit est quand même assez fou, là, Samuel Coavou.
Tout à fait. Enfin, je ne crois pas être très compétent pour dire ça, mais de toute façon, les jeux ont puisé dans des domaines de la vie, des domaines de l'histoire, de la politique, de la société, très variés, et il n'y a pas de raison que les virus n'en fassent pas partie. Je pense qu'il y a déjà un certain nombre de jeux qui prennent pour thématique des virus et des pandémies, pas forcément celle-ci.
Bruno Catala, le coronavirus, ça pourrait vous inspirer pour un nouveau scénario de lutte contre une pandémie mondiale, par exemple ?
Alors personnellement, non, pas trop, parce que c'est pas des sujets que j'ai envie de traiter, parce que ça vient faire écho à des peurs personnelles, si vous voulez. Mais par exemple, vous avez déjà un jeu qui est très très connu et qui s'appelle Pandémie, justement, et qui traite du sujet. Et c'est exactement un coopératif dans lequel on va lutter tous ensemble contre l'invasion des virus sur la Terre.
Qui a été inventé avant l'arrivée du coronavirus ?
Qui a été inventé bien avant, je sais pas, 5-6 ans avant l'arrivée du coronavirus. Ouais.
Tout vous inspire, ceci dit, parce que pendant le premier confinement, je sais que, on se souvient que les gens se ruaient dans les magasins avec la peur de manquer de papier toilette, et vous avez créé un jeu, je ne sais pas s'il a vraiment été édité ou pas, ça s'appelait Pécultiste.
Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, c'était un jeu de mots et puis surtout un clin d'œil à ce comportement complètement hallucinant d'un certain nombre de nos concitoyens. Et donc, pour faire rigoler la communauté des joueurs, etc., et pour offrir un peu de sourire dans cette période peu réjouissante, effectivement, j'ai créé un jeu dans lequel il s'agit de récupérer le plus grand nombre possible de rouleaux de papier toilette dans un supermarché. Et ce jeu n'a pas été édité au sens vendu en boutique, etc. Mais par contre, je l'ai fait illustrer et je l'ai mis en téléchargement libre sur mon site internet.
Ouais, bon, brunocatala.com, c'est ça. Allez voir. Exactement. Il faut un esprit particulier, Bruno Catala, pour inventer des jeux. Est-ce qu'il y a des choses communes avec les jeux vidéo ou pas dans l'imaginaire ?
Oh bah sur les thématiques, évidemment, mais après la façon dont on les met en œuvre, pas du tout, puisque là, il va falloir qu'on puisse jouer avec des bouts de papier, du carton, des dés, enfin, etc., autour d'une table. Donc le support est quand même différent et va avoir ses spécificités. Par contre, pour créer, de toute façon, je pense que c'est vrai pour le jeu comme c'est vrai pour le livre ou pour d'autres choses. Il faut être curieux, puis quelque part, il faut avoir envie de raconter des histoires et de les mettre en scène.
Mais qu'est-ce que c'est un bon jeu de société, dans le fond ?
Un bon jeu de société, c'est un jeu que vous avez envie de rejouer une fois que vous avez terminé votre première partie. C'est un jeu dans lequel, quand vous l'emportez, vous avez l'impression d'avoir été malin. Et puis, quand vous ne l'avez pas emporté, quand vous avez perdu, c'est que finalement, vous n'avez pas eu de chance. Donc, c'est un jeu qui vexe personne.
Donc, il faut créer de la frustration, dans le fond,
exactement,
dans le scénario.
La frustration, c'est le principal moteur pour moi du jeu, effectivement.
Samuel Coavou, vous êtes d'accord ?
Oui, effectivement, on pourrait penser ça, mais c'est un point de vue qui est assez situé et qui dépend très largement des publics. Il y a des publics pour lesquels l'appréciation de la stratégie et de la difficulté des jeux est extrêmement importante dans la qualité d'un jeu. Il y en a d'autres pour lesquels le hasard en soi est au contraire une des sources du plaisir. Et ça, c'est quelque chose qui est assez marqué socialement. C'est-à-dire qu'on va trouver plus de valorisation, par exemple, du hasard comme mécanisme de jeu dans les milieux populaires, alors que dans les milieux auxquels appartiennent le plus les passionnés de jeux de société, qui est surtout dans les classes supérieures, on va avoir une valorisation plus importante de la stratégie, effectivement, de formes de frustration qui donnent envie de continuer. Oui. Et qui sont différents.
Et on se retrouve pas forcément toujours pour rigoler, d'ailleurs. Hein. Faut pas croire. Hein. Ça peut être très très ennuyeux, très très mental.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des jeux très passionnants qui peuvent être effectivement ennuyeux pour quelqu'un d'extérieur ou qui peuvent être très réfléchis, et vice-versa, il y a des jeux qui peuvent paraître très embêtants et qui, enfin, ou qui sont, en tout cas, qui peuvent paraître de mauvaise qualité, mais qui sont appréciés par, par les pratiquants parce qu'ils permettent de faire autre chose que du jeu. Et souvent, typiquement, c'est ce qu'on trouve dans nos études, souvent le jeu de société, notamment les jeux très traditionnels, typiquement le Monopoly, sont des jeux qui sont appréciés moins pour ce qu'ils sont, parce que souvent, en soi, ils ne sont pas très intéressants, que parce qu'ils permettent de rassembler des gens autour d'une table et de partager un moment avec ces gens.
Allez, appelez-nous.
C'est le principal, c'est la principale comment dire, motivation du jeu. Le jeu, c'est juste créer du lien social. Le jeu en lui-même n'est qu'un prétexte, en
oui,
fait.
Vous n'inventez pas que des jeux avec des règles ultra compliquées, Bruno Catala. Oui. Appelez-nous pour nous parler de vos jeux préférés, les voisins, les voisines, hein, de ce qui vous fait vibrer quand vous jouez. Les jeux de société sont tendance, donc normal. Ils inspirent aussi les rappeurs, mais avec un humour grinçant en prime. C'est nos.
Un jour, on joue et on gagne, donc on joue et on gagne, mais un jour, on repère tout. Un jour, on joue et on gagne, donc on joue et on gagne, mais un jour, on repère. À ce petit jeu-là, certains brassent des barres. Nous, on veut pas aller en prison sans passer par la case départ. Rien à l'horizon, on espère tous le carré d'as. Donc j'ai toujours un petit frisson quand je regarde mes cartes. Ça joue, mais ça galère grave. La preuve, j'ai aligné ce rap comme des carrés de Scrabble. On distribue les jetons à part égale. Gars, c'est notre institution, ça en devient même désagréable. Une personne sur un million gagne ce concours. Les places sont toutes convoitées, ouais. Et aucune étape ne se contourne. Au lancer des faut que je monte mon doigté. Que je prenne des risques ou que je passe mon tour. Faut se méfier par ça, on est un peu obsédé. On perd, on gagne, pris à la gorge par un nœud trop serré. On veut progresser, ouais. Mais on est que des pions et notre vie n'est qu'un jeu de société.
La rue, un jeu d'échecs, mec, mat la reine. Où c'est échec et mat coke dans les narines. C'est le cachet, le vice qui décuple la haine. Retour à la case départ par les bleus marines. Trivial poursuite à en perdre haleine. Suis les règles à la lettre, t'écarte pas de la ligne. La vie est un jeu de société. Oh merde. La vie est un jeu de société. Oh merde. La vie, un jeu d'échecs, mec, mat la reine. Mat la reine. D'échecs et mat, deux choix dans l'arène. Dans la reine. La rue de la paix ou la rue de la pègre. J'approvisionne ma tirelire ou je casse la tienne. Casse la tienne. Marianne ne sera jamais ma dame de cœur. Tant que mon président raciste sera un as de pique. J'aligne les PV comme à puissance 4. Je pioche la carte chance, merde, je gagne la licence 4. Passe ton tour, fume la Mastercard. N'aie pas la trouille, trouille. Perds pas la face comme Caster Troll. Soit tu perds, soit tu perds, soit tu gagnes. Fais le tri dans tes cartes. Soit tu joues ou tu passes. La vie est un jeu de société. Oh merde. La vie est un jeu de société. Oh merde. La vie est un jeu de société.
La vie est un jeu de société. Merci à Romain Dubrac pour cette super programmation musicale. Vous écoutez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI. Et on partage des coups de cœur sur les jeux de société, surtout en ce moment. Ils ont le vent en poupe. Les ventes se portent bien. On l'a dit, la France est leader sur le marché européen, mais on joue dans toutes les cultures. À toutes les époques, on joue à des jeux de société. Et vous nous appelez, bien sûr, pour nous faire partager ce qui vous anime. 33 7 64 45 51 41. On accueille un auditeur, Kasongo, qui est à Kinshasa, en RDC. Bonjour, Kasongo.
Bonjour, Emmanuel, et bonjour aux auditeurs, à tous les voisins et voisines.
Kasongo, vous avez créé un concours d'échecs Zouka Chess Academy, qu'on peut même retrouver sur Internet. Et c'est ce qui vous anime, hein, vulgariser les jeux d'échecs pour les plus jeunes?
Oui, c'est l'objectif de la Zouka Chess Academy, c'est rendre promouvoir la pratique du jeu d'échecs auprès des jeunes. Mm.
Quelles vertus ont ces jeux d'échecs? Qu'est-ce que vous constatez?
Oh, plusieurs. Moi, ce qui m'a emmené sur cette aventure, qu'a initié mon ami Alphonse Zouka, qui lui est passionné, pas que de jeux d'échecs, pas que de jouer aux échecs, mais de former les jeunes aux échecs, c'est la concentration. Mmh. C'est l'estime de soi que je retrouve dans les joueurs qui jouent aux échecs. Et puis, il y a toutes les autres vertus qui sont citées. Ça favorise la mémoire, la capacité de lecture, la capacité d'élaborer des stratégies et tout. Et pour la petite histoire, je me suis retrouvé par hasard à Kisantu, 120 km de Kinshasa, pour voir mon ami Alphonse et tout. Et j'ai assisté à une partie, à un tournoi d'échecs. Il avait fait venir des joueurs qui venaient de 20 km de Kisantu, un petit bourg vraiment reculé. Et ces jeunes joueurs affrontaient des étudiants, un premier doc médecine à l'Université du Congo.
Oui.
Et ils ont battu des universitaires, des petits de 15-16 ans, qui commençaient à peine les humanités scolaires. Ils ont battu des étudiants premiers de l'année.
Ouais. Alors ça, c'est sûr que ça renforce l'estime de soi quand on a été formé au Otsuka Chess Academy. Je crois que vous êtes en train de former une équipe pour les Jeux de la Francophonie de mars 2022, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire que bon, comme on prend de l'ampleur, en fait, le tournoi qu'on a organisé dernièrement à Ngeba, c'était en fait une reconnaissance qu'on faisait à ces joueurs du milieu populaire, comme on dit. Hein. Eh bien, on a voulu organiser un tournoi à Ngeba chez eux. Ils ont eu l'opportunité d'accueillir des joueurs qui venaient de Kinshasa, Matadi, Boma, toutes les grandes villes. Et par rapport à l'environnement dans lequel ils étaient, c'était pour montrer à leurs parents, à tous les gens, que bon, ce qu'ils faisaient avait du sens.
Bien sûr,
Et dans ce cadre-là, voilà, dans ce cadre-là, comme il y a les Jeux de la Francophonie qui sont prévus au mois de mars 2022, en espérant que les échecs soient un sport connexe à toutes les activités, bon, on prépare une équipe pour pouvoir participer à ce jeu.
Eh bien, bravo en tout cas à vous, Kasongo. Allez voir la Otsuka Chess Academy. On donne la parole aussi à Tiburce, qui est à Libreville, au Gabon, et qui nous appelle au 33 7 64 45 51 41. Bonjour Tiburce.
Bonjour Emmanuel, bonjour à vos invités, aux auditeurs des RFI.
Vous jouez, vous, depuis votre plus jeune âge, hein, il me semble. Qu'est-ce que ça vous a apporté et à quoi vous jouiez?
Oui, très jeune, j'étais très solitaire. J'avais toujours tendance à m'enfermer, à me plonger dans les livres. Et en commençant à jouer, j'ai eu cet avantage d'avoir une ouverture chez les autres, de m'ouvrir aux autres. Et c'est là, les joueurs ont participé beaucoup à cela. Cela m'a amené à m'ouvrir aux autres. Et bien sûr, surtout, à développer des stratégies. Et je me suis rendu compte, adulte, que ces stratégies que j'ai développées en jouant, pour pouvoir bien sûr arriver à être le vainqueur, ces stratégies m'ont profité dans le milieu professionnel.
Ah,
je m'en suis servi dans le milieu professionnel et cela me profite beaucoup.
Oui, avoir toujours un coup d'avance. Merci beaucoup.
Oui, bien sûr, définir un objectif et puis pouvoir le viser en mettant des stratégies en place, comme si j'étais sur un jeu de société et arriver à la victoire à la fin.
Ouais, la vie est un jeu de société, c'est ce que chantait le groupe de rap Seno. Bruno Catala, Samuel Coavou, vous voulez ajouter quelque chose?
Non, mais c'est vrai que le jeu développe la capacité d'analyse, et la capacité d'analyse, elle nous servira toute notre vie, de toute façon.
Et sur l'estime de soi, c'est intéressant aussi, ça. Samuel, quoi à vous ?
Effectivement, les jeux enseignent beaucoup de choses. C'est des contextes d'apprentissage informels, mais ils peuvent permettre de transmettre aussi bien genre des capacités d'analyse mathématique, d'analyse de situation, que effectivement renforcer l'estime de soi. Parce que l'un des intérêts des jeux, c'est qu'ils ont des sanctions positives ou négatives, mais rapides, qui fait qu'on a des retours sur les actions que l'on fait. Et d'autre part, qu'ils sont sans conséquences, ils sont gratuits. C'est-à-dire, si on perd à un jeu, c'est pas grave, et si on gagne à un jeu, eh ben, on gagne justement le sentiment d'avoir réussi à gagner. Effectivement, ça renforce cela.
Oui, alors il peut y avoir aussi des disputes mémorables, hein, comme le disait un de nos auditeurs au début de l'émission. Il peut y avoir des mensonges, de la tricherie. On est en ligne maintenant à Abidjan avec Charles Abissé. Bonjour Charles Abissé.
Bonjour Emmanuel. Bonjour aux 7 milliards de voisins.
Eh bien, soyez le bienvenu. En Côte d'Ivoire, on aime jouer aux jeux de société.
Bien sûr, bien sûr. Et en Côte d'Ivoire, particulièrement, on raffole d'un jeu de société qui est typiquement ivoirien, qu'on appelle le tek-tek.
Alors, qui se joue avec des bouchons de bouteilles, il y a des points communs avec un terrain de foot un peu.
Bien sûr, c'est un jeu qui, en fait, qui est passionné de football, voilà, pour tous les passionnés de football. Donc, nous, à notre niveau, on a vraiment innové ce jeu-là, aujourd'hui, qui ne s'appelle plus Tech-Tech, mais qui s'appelle Tech-Tech Ball, pour le rendre un peu international. Donc, le Tech-Tech Ball, c'est quoi? Ce n'est que la version moderne du Tech-Tech que l'on pratiquait quand on était petit. Voilà, c'est un jeu qui a bercé l'enfance de tous les Ivoiriens, comme je vous le disais, avec les capsules. Donc, aujourd'hui, nous avons la version moderne avec des plateaux, voilà, bien esthétiques. C'est un jeu de précision, un jeu d'habileté, un jeu de concentration. Donc, c'est toutes ces aptitudes-là qu'aujourd'hui, ce jeu-là développe chez le joueur.
C'est-à-dire que vous l'avez surélevé, on n'est plus obligé d'être accroupi par terre dans la rue, dans le sable pour jouer. C'est un peu comme un baby-foot, plus ou moins. On est sur une table, quoi.
Voilà, justement, un peu comme un baby-foot, aussi, on va dire, comme un billard aussi également. Oui. Donc, comme vous le disiez, aujourd'hui, on n'a plus besoin de se traîner par terre, voilà, à jouer à des parties de tech-tech. Donc, aujourd'hui, le tech-tech go fédère, on va dire, toutes les générations. C'est-à-dire, aujourd'hui, papa, maman, enfant, voilà, tout le monde peut jouer au tech-tech, voilà. Au tech-tech ball, on va dire.
Allez voir les photos, on les a postées hein, sur nos réseaux sociaux, les voisins et les voisines. Vous en avez vendu beaucoup des tech-tech balls, Charles Abissé ?
Bien sûr, c'est un jeu qui est très prisé ici en Côte d'Ivoire par les enfants et même les adultes ici également.
Vous le vendez au-delà de la Côte d'Ivoire, je crois.
Oui, nous avons des commandes, même en France, puis un peu partout aussi en Afrique également.
Et des partenariats avec les écoles.
Oui, nous sommes en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale à travers la direction de la vie scolaire. Donc aujourd'hui, le tech-tech ball est considéré comme un matériel didactique dans les écoles. Et nous organisons chaque année un championnat de tech-tech ball qui fédère tous les établissements scolaires et secondaires de Côte d'Ivoire.
Je sais que vous concevez d'autres jeux. Hein. Il y a un jeu immobilier entrepreneuriat en Afrique qui ressemble un petit peu au Monopoly. Il y a un jeu qui s'appelle Jungle, c'est ça aussi?
Bien sûr. En fait, le jeu inspiré du Monopoly se nomme Fortuna Jetin. Alors, c'est un jeu qui prône l'entrepreneuriat et l'investissement, on va dire l'intelligence financière. Oui. Donc, c'est un jeu qui est inspiré du Monopoly, mais qui se joue de manière différente du Monopoly. Parce qu'il est typiquement, on va dire, focus sur l'entrepreneuriat, investi en bourse aussi également.
Et Jungle ?
Il y a le jeu Jungle aussi qu'on a créé l'année passée, voilà, pour le confinement, voilà, pour aider les familles à pouvoir faire des parties de cartes. Donc c'est un jeu de cartes qui désigne le régime alimentaire des animaux qui vivent dans la forêt. Ah. Donc on a des carnivores, des herbivores, des omnivores, oui. Voilà, qui se battent dans la jungle et un seul doit survivre.
Sur cet aspect, vous nous le disiez, Charles Abissé, cet aspect multigénérationnel, Bruno Catala, Samuel Coavou, est-ce que c'est encore le cas, Bruno Catala, ou vous, sur vos jeux davantage de stratégie, c'est plus la bande d'amis, de jeunes adultes?
C'est vraiment mélangé, en fait. Je vais avoir certains jeux qu'on va pratiquer volontiers en famille, mais tout aussi bien entre amis, et ça va vraiment dépendre de qui s'empare du jeu. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le jeu n'est pas réservé à la relation parent-enfant, et quelque part, c'est tant mieux.
Ouais. Samuel, quoi à vous ?
Effectivement, ils ne sont pas du tout réservés à la relation parent-enfant et on joue dans plein de configurations sociales différentes. Cela dit, il y a des jeux qui sont plus appropriés que d'autres pour des liens intergénérationnels qui d'ailleurs dépassent la relation parent-enfant. C'est aussi avec les grands-parents, c'est aussi avec la famille élargie.
Charles Abissé, vous arrivez à vivre de vos jeux aujourd'hui ou c'est une passion à côté d'autres métiers ?
Déjà, c'est une passion, voilà, parce que notre objectif, c'était de valoriser la culture ivoirienne à travers le monde. Donc, c'est un pari réussi à travers le Tech-Tech Ball. Donc, aujourd'hui, grâce à notre innovation, voire nos inventions que nous faisons, nous avons acquis vraiment une part du marché. Donc, pour dire que oui, les jeux de société aujourd'hui, ça marche bien.
Y compris sur le continent africain. Bruno Catala, il y a peu d'auteurs hein, de jeux qui vivent vraiment de ça. Mais moi, j'ai été surprise de constater que maintenant, sur les boîtes, on voit le nom du créateur du jeu qui figure sur la boîte.
Tout à fait, comme sur une couverture de bande dessinée ou sur une couverture de roman, il y a le nom de l'auteur, oui, tout à fait.
J'imagine que vous, aujourd'hui, ça y est, vous en vivez, Bruno Catala, largement.
Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, ça va très bien, mais ce qu'il faut savoir pour vos auditeurs, c'est que sur un jeu que quelqu'un achèterait 30 euros, par exemple, dans une boutique, l'auteur, son salaire net, c'est de l'ordre de entre 50 et 80 centimes d'euros.
Donc vous regardez combien de jeux il faut vendre par mois pour réussir à en vivre et vous rendez assez vite compte que c'est quasiment impossible, sauf à avoir un hit, en fait.
Oui,
et
c'est ça.
Aujourd'hui, j'ai cette chance-là.
Et vous avez cette chance-là avec
King Domino.
King Domino, vous avez vendu pas loin d'un million d'exemplaires, c'est ça ?
Exactement.
Un message de Nathalie qui est à Anvers en Belgique et qui nous dit bravo pour l'initiative pour les petits et les jeunes en RDC. Concernant cet auditeur qui nous appelait sur les échecs, ça change aussi de nos loisirs populaires. Est-ce que des filles participent aux tournois ? Oui, il y a des filles dans les tournois d'échecs dont nous parlait Kassongo. Bruno Catala, quand vous rencontrez vos fans, qu'est-ce que vous aimez qu'ils vous disent finalement ?
Bah moi déjà, ce qui est important pour moi, c'est qu'on fait partie de la même famille, c'est-à-dire qu'on est avant tout des passionnés, et peu importe si l'un d'entre nous, moi en l'occurrence, a créé un jeu, et eux, entre guillemets, y jouent. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est un moment de partage, où en fin de compte, on se dit qu'on a aimé les mêmes choses, et puis on se fait un sourire, je vais s'y faire une signature dans la boîte, et éventuellement, si on a le temps, on va faire une partie ensemble. Et à nouveau, ben le jeu me permet du lien social avec des gens que j'aurais jamais rencontrés
oui,
autrement.
Parce que vous aussi, vous jouez tout le temps, évidemment.
Ben parce que oui, c'est ce que j'aime, tout simplement.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Bruno Catala. Merci à Charles Abissé aussi, fondateur de Crise Up. Et merci à vous, Samuel Coavou, sociologue. Merci à tous les trois. On se quitte avec un petit surdoué de 24 ans, qui a son. Et ensuite, ce sera le journal sur RFI. À demain, les voisins. Grandma was born in the land of magic, Benin. If you didn't know about it, her smile turned every guy into an addict. In this village by the sea, she was the one to marry. One day your mama told her, you're going to France. Here is the man who was gonna be your husband. No, I don't know the language and I'm happy you're here, I swear. I'm sorry, daughter, but you have to make it for the fam. So now, she's on the boat. The unknown is ahead and she's far from her folks. She don't know that this country will judge her because of her color. She don't know the stories between the French and her ancestors. Her spouse, a black tailor from the French Navy who barely speaks. His past is trauma and grief. He's not comprehensive and outside his racism. It won't be easy to make it in this nation. My sister, do not let them make fun of you. My sister, do not let them make fun of you. No matter where you're from, tell them that. Later, here's my mom, the youngest of three. Kids laugh, skin dark like a piano key. She quickly understood that her color meant more than pigments. She had to go through situations and it wasn't figments. She was pretty and young and proud to be black. She never tried to straighten her hair, never care about that. They called her Chinese nigger cause of her almond eyes. One day at school she got tired and almost killed a guy. These little paper tigers can't be dumber than a bag of hammers. But racist designations came from a bigger brother. Their parents barren spread colonial constructions upon which French leaders sit with attention. When she was 18, she had a light skin friend who dreamt of being white, always making a scene. When it came to African jeans, it won't be easy to make it in the 18. My sister, do not let them make fun of you. My sister, do not let them make fun of you. No matter where you're from, tell them why they always gotta pick at me? Afro picked out, treat me like a pickaninny. Said I need a perm, don't they understand the difference in me? Power in my fro, Tommy Smith, gold medal, black fist, fast forward the captain. Demain, 7 milliards de voisins, émission spéciale. Vous allez découvrir les lauréats de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. RFI récompense chaque année de jeunes journalistes et techniciens radio en Afrique francophone. Vous allez les entendre, découvrir leurs reportages qui ont remporté les suffrages du jury de professionnels. C'est la 8e édition de ce concours ouvert à 25 pays d'Afrique francophone qui a été créé en hommage à nos deux reporters, Ghislaine et Claude, assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, au nord du Mali. Cette date est devenue la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Nous en parlerons notamment avec Reporters sans frontières. À demain, soyez à l'écoute.
7 milliards de voisins, c'est fini.
Tous les jours,